Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Joyeux mélange de tennis, de descente VTT et de hockey sur glace aujourd'hui dans Cap Sport. Le tournoi de Roland-Garros prend son envol lundi. Il est marqué par le retour de Roger Federer sur la terre battue parisienne. Retour qui ne manque pas d'alimenter les discussions. Dans un autre registre, la locloise Camille Balanche a été sacrée championne d'Europe de descente VTT il y a 3 semaines en Espagne. La discipline est spectaculaire, attire du public, mais elle manque de considération et de moyens. Camille Balanche est l'invitée de Cap Sport. Retour aussi avec notre envoyé spécial en Slovaquie, Mathieu Schnaffner, sur le parcours de l'équipe de Suisse de hockey sur glace, qui hier a raté la demi-finale des mondiaux pour 4 dixièmes de seconde.
Cap Sport, Marcel Neuenschwander.
Bonsoir, avec 11 titres à son palmarès, Rafael Nadal est le roi de Roland-Garros, mais l'empereur du tennis reste Roger Federer. Le retour du Balois sur la terre battue parisienne nourrit toutes les discussions. Un retour aussi en forme d'interrogation. Roger Federer abordera-t-il le tournoi français avec le 100% de ses moyens? La semaine dernière, il a renoncé à disputer son quart de finale au tournoi de Rome contre Stefanos Tsitsipas en raison d'une blessure à la jambe. Jérémy Pignard, lui, a rencontré un autre acteur du tournoi français, Pierre-Hugues Herbert. Domicilié à Delémont, le joueur tricolore est matricule 40 à l'ATP. Il livre ses impressions sur Roger Federer, Roland Garros et ses entraînements à Vienne à l'écart des turbulences du tennis mondial.
Déjà, je retrouve mon chez-moi, ce qui est hyper important. Je suis très content là après un début d'année où j'ai énormément voyagé, d'avoir pu faire une semaine ici. Et effectivement, avec Swiss Tennis à Vienne, qui est à une 35-40 minutes de chez moi, et les installations physiques avec la belle salle du Physique Club ou même les cours ici du TC Delémont et du TC Courant de Lin, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir m'entraîner. Et donc, j'en ai profité avant Roland-Garros pour passer du temps à la maison et en même temps pouvoir me faire une bonne préparation pour ce Roland-Garros.
Il y a une atmosphère particulièrement détendue ici, on ressent peut-être moins la pression qu'ailleurs.
Ça c'est certain, c'est certain. Quand je reviens ici, j'ai la possibilité de me reposer, d'être dans un environnement calme, avec des gens qui sont très accueillants, donc j'en profite un maximum.
Votre meilleur résultat, je crois que c'était l'an dernier, avec un 32e contre John Isner. Il y a l'envie, en tant que Français évidemment, d'essayer de faire mieux sur ce tournoi.
Complètement, il y a énormément d'envie. C'est pour un joueur français, Roland Garros, c'est quasiment le tournoi de l'année. C'est là où on a envie de briller. C'est en tout cas moi, le Roland Garros, c'est ce qui m'a donné envie de jouer au tennis. C'est ce que j'ai vu, les premières images de tennis que j'ai vues à la télé. L'année dernière, j'ai eu un Roland Garros extraordinaire avec ce troisième tour en simple et cette victoire en double avec Nicolas. J'espère que je vais surfer sur ces bonnes ondes cette année. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il va falloir une fois de plus essayer de bien gérer cet événement, parce qu'il y a énormément d'envie, énormément de pression. Donc il faut arriver à transformer ça en énergie positive sur le terrain.
Mais il y a aussi des bons signaux, parce que sur terre battue, ben vous avez battu Verdasco, vous avez battu Nishikori cette année, c'est pas rien, c'est des références aussi.
Oui, non, c'est sûr que je me suis prouvé sur la première partie de saison sur terre que je pouvais être efficace sur cette surface, et j'espère que je le serai à Paris.
Les chances françaises, cette année vous sentez qu'il peut se passer quelque chose? On a vu Gaël titiller Roger dernièrement.
Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de l'état de forme de Rafael Nadal, ça va dépendre de l'état de forme de Novak Djokovic. Voilà, c'est des grands cadors, il y a Roger qui va rejouer cette année. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être un peu plus ouvert que les autres années avec le début de saison sur terre battue de Rafael Nadal. J'espère qu'un Français pointera le bout de son nez pour essayer d'aller chercher et de faire une semaine incroyable. Si ça peut être moi, je dis pas non.
Comment c'est vécu en France et par vous les joueurs français aussi le retour entre guillemets de Roger porte d'Auteuil?
En tout cas, pour le public et pour le tennis, c'est magnifique. Pour le public français, pouvoir revoir Roger à Paris sur terre battue, c'est incroyable. Je pense que voilà, la terre battue lui a un peu manqué. Je pense qu'il arrive, il sent qu'il est aussi en fin de carrière, qu'il faut qu'il se fasse plaisir. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait un retour sur terre battue à Roland-Garros. En tout cas, nous les joueurs et même le public, on est hyper heureux qu'il soit de retour à Roland-Garros.
On a parlé des Français, justement, les chances des Suisses, le retour de Roger, Stan aussi, que vous avez perdu malheureusement à Madrid la semaine dernière.
C'est sûr que oui, Stan monte en puissance depuis ce début d'année. Il a extrêmement bien joué à Madrid. En tout cas, moi, je l'ai vécu en live sur le terrain. C'est deux excellents joueurs, Stan et Roger, des joueurs qui sont capables d'aller extrêmement loin dans les grands chelems. Ils l'ont prouvé par le passé, donc ça va être des gros clients sur ce Roland-Garros, quoi qu'il arrive.
Et Roger à Roland, c'est pas le palmarès de Nadal, mais en cote de popularité, on sait que ce public français, il l'aime.
D'autant plus qu'il a manqué à ce public-là pendant 2 années, donc je pense qu'il va être accueilli de belle manière, ça c'est certain. Il le mérite aussi, donc tout le monde se fait une joie de le revoir à Roland-Garros.
On a vu sur terre battue des surprises surprises dernièrement depuis l'ouverture de la saison sur terre. On voit une nouvelle génération qui arrive. Ça peut être un Roland-Garros du renouveau et pas l'énième Roland-Garros Rafael Nadal.
Alors il va quand même falloir compter sur lui, sur Raphaël, parce que voilà, il a quand même des bonnes ondes là-bas à Paris. Ça fait quand même quelques années qu'il le gagne. On gagne pas, voilà, on gagne pas 11 fois ce tournoi pour rien. Mais c'est vrai qu'à par rapport à certaines autres années, il survole pas la saison sur terre pour l'instant. Il y a des nouvelles têtes qui font apparition. Voilà, il y a eu Tsitsipas qui était en finale, Djoko qui vient de gagner. Enfin, c'est pas une nouvelle tête, Djokovic, mais il y a des jeunes qui arrivent. Donc c'est certain que ça peut être une édition assez intéressante et de toute façon, c'est vrai que ce début d'année, il se passe beaucoup de choses. Il y a énormément de vainqueurs de tournois. On ne peut pas dire que voilà, le Big Four, comme à l'époque, gagnait tous les gros tournois. Aujourd'hui, il se passe pas mal de choses. Il y a Dominic Thiem qui fait aussi un super début de saison. Donc voilà, il y a plutôt pas mal de prétendants à être vainqueurs sur ce tournoi, en sachant que pour moi, le favori reste quand même Rafael Nadal.
Et une surprise, Pierre-Hugues Herbert en deuxième semaine ?
Ça serait magnifique. Si vous me donnez le contrat là tout de suite, je signe. Mais il va y avoir beaucoup de route jusque-là. Il va falloir... ça va passer par déjà un premier tour où on va essayer. Ça va dépendre aussi peut-être un petit peu du tableau, parce que compte tenu de mon classement, je vais pas pouvoir être trop protégé avec une tête de série. Je pourrais tomber contre un gros cador tout de suite. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et si je suis en deuxième semaine, je me rappellerai de cette petite interview.
Roger Federer, lui, entamera son tournoi Roland-Garros contre le jeune espoir italien Lorenzo Sonego, 73e à l'ATP. Stan Wawrinka, lui, en découdra avec le Slovaque Joseph Kovalic. Dans le tableau féminin, Belinda Bencic affrontera l'invité français Jessica Ponchet. Victoria Golubic défiera la taïwanaise Yu Su-wei. Et puis la chaudefonnière Connie Perrin, elle, a été éliminée cet après-midi au troisième tour des qualifications en 2-7 contre la japonaise Kurumi Nara.
Cap Sport.
Le tennis, voilà peut-être l'un des rares sports que Camille Banoche n'a pas pratiqué à un bon niveau. Domiciliée à Bienne, cette locloise de 29 ans est du genre très polyvalent. Elle faisait par exemple partie de l'équipe de Suisse féminine de hockey sur glace engagée aux Jeux Olympiques de 2010 à Caligari. Depuis, elle a abandonné le hockey. Il y a 3 semaines, en Espagne, elle est devenue championne d'Europe de descente VTT. La descente VTT, une discipline spectaculaire qui attire du public mais qui souffre d'un manque de notoriété. Elle n'a pas le label olympique et cela péjore beaucoup ses athlètes qui disposent d'un soutien mitigé de Swiss Cycling, la Fédération Nationale. Camille Balonche, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue chez nous, bienvenue dans Cap Sport. Camille Balonche, vous avez été très récemment championne d'Europe de descente VTT. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Quelle importance accordez-vous à ce titre ?
J'apporte pas beaucoup d'importance, mais c'est sûr que ça reste le plus beau titre que j'ai eu jusqu'à maintenant avec l'autre descente. Après, pour moi, ça reste plus important tout ce qui se passe en Coupe du Monde, parce que là, il y a toutes les filles et toutes les meilleures qui sont là. Donc pour moi, c'est un peu plus important, mais c'est sûr que celui-là, je le garde et puis que je vais m'en souvenir enfin, pour toute la vie. Et puis je vais avoir maintenant toute la saison avec le maillot de champion d'Europe sur les épaules.
Ce titre, on a le sentiment qu'il n'a pas eu beaucoup d'écho. En tout cas, la descente, on n'a pas énormément d'écho par rapport au cross-country. Est-ce que c'est une réalité?
Oui, c'est une réalité. Puis c'est un petit peu aussi normal, j'imagine, vu que les résultats qu'on a avec la descente et les résultats qu'ils ont en cross-country, ils sont quand même champions du monde, champions d'Europe, champions suisses, ils gagnent tout. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est normal. Après, ça demande quand même à être mieux connu, surtout que c'est super cool à regarder. Il y a plein d'actions, des sauts, tout ça. Donc je pense que ça pourrait prendre une place quand même un peu plus grande, puis on aurait plus de soutien, puis on pourrait aussi faire de meilleurs résultats.
On souffre du fait que cette discipline n'ait pas le label olympique, à l'inverse du cross-country.
Oui, parce que chez nous, comme le système marche avec Suisse Olympique, toutes les aides sportives, tout ça qui finance un peu les athlètes pour les aider, elles sont là que pour les sports olympiques. Du coup, vu que nous, si on n'est pas un, ben, on n'a rien de tout ça. Donc, c'est sûr que ça aiderait si c'était un sport olympique, c'est sûr.
C'est une discipline spectaculaire, hein, Camille Balonche. On le sait, lors des grands rendez-vous, il y a beaucoup de monde au bord de la piste.
Oui, oui, il y a 30 000, des fois 60 000. Et puis surtout, c'est toujours en live sur Red Bull TV. Là aussi, il y a des millions de téléspectateurs qui regardent. Et puis, même après, encore des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a pas mal de gens qui s'intéressent et puis qui se déplacent pour venir regarder.
Quel est le plus grand événement que vous avez vécu dans votre courte carrière de descendeuse ? Quel est le plus beau jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez mettre en avant ?
C'est sûr que ça restera les championnats du monde à la maison. Alain sera aidé l'année passée. Il y avait un monde de fous. C'était mes premiers championnats du monde, donc déjà rien que ça. Et puis surtout d'être à la maison, qu'il y ait les amis qui se déplacent. En plus, on a eu de la chance avec la météo, donc c'était vraiment génial, c'était fou. En plus, Nino qui gagne là-bas et tout, donc c'était vraiment une ambiance géniale.
La discipline de descente, on dit que c'est une discipline de fou. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui et non. Quand on ne la connaît pas, je suis d'accord pour dire que... qu'on est un peu des fous et tout ça, mais après, en fait, on remarque, moi, j'étais la première à dire ça, hein. Puis après, on remarque que, en fait, il y a quand même tout qui est calculé, on fait la piste à pied, on connaît chaque racine, chaque pierre, donc après, on connaît aussi nos capacités, puis on ne va pas se lancer, puis faire des gaps, des trucs, des sauts qu'on sait qu'on ne va pas réussir, donc ça se fait petit à petit, puis ce n'est pas dès le premier jour, la première descente, qu'on va tout descendre à McNeil, c'est step by step, et puis au final, c'est quand même assez calculé, donc... Je ne pense pas que c'est si fou que ça.
C'est autant calculé qu'un descendeur à ski, par exemple.
Oui, on peut vraiment, vraiment bien comparer la discipline de vélo de descente avec le ski. Pour moi, c'est la même chose. Sauf que eux, c'est plus après la neige qui change un petit peu. Ils n'ont pas vraiment spécialement des choses à tirer, des doubles comme ça. Mais c'est la même chose. Ils doivent se souvenir des lignes. C'est qu'ils la passent plutôt en haut du piquet, en bas. Puis nous, c'est la même chose. Est-ce qu'on est plutôt inter, exter du virage? C'est la même, à peu près la même distance, la même longueur. Nous, on est autour des 3 minutes minimum, 3 à 5 minutes. Et en ski, c'est aussi autour des 3 minutes, donc un peu moins.
Ça se ressemble pas mal. Et si on compare avec l'équipement d'un vététiste qui fait du cross-country, on est aussi beaucoup plus protégé.
Oui, quand même un petit peu. Obligatoire, c'est sûr, c'est les genouillères et le casque intégral. Après, c'est au choix du descendeur, s'il veut mettre encore toute la carapace, entre guillemets, d'avoir une protection pour le dos, les épaules, voire les coudières. On a même aussi des protections pour la nuque, pour éviter de se casser les cervicales. Ça, c'est tout du plus. Et puis, y a pas tout le monde qui met tout, mais c'est sûr que si on a envie de se protéger, on peut quand même bien se protéger.
Camille Ballon, je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de moyens pour ces descendeurs, même au haut niveau. Alors, généralement, c'est la règle de la débrouille du système B pour vivre, pour pratiquer ce sport, qui est quand même coûteux.
Oui, c'est sûr. Il faut savoir... bien s'organiser, trouver des petits sous à gauche, à droite, et puis surtout trouver des moyens que ça nous coûte le moins cher possible. Souvent, on doit quand même prendre l'avion pour se déplacer sur les Coupes du Monde. Du coup, ça veut dire on a un vélo avec. L'idéal, ce serait d'en avoir deux, hein, pour s'échauffer. Mais sinon, avec un vélo, ça veut dire qu'on a le droit à 32 kilos. On essaie de ne pas prendre de bagages supplémentaires. Donc, tout mettre dans le bagage de vélo, le reste dans le bagage à main. Donc, on apprend à voyager déjà avec le strict minimum. Et puis après, si on peut se déplacer sur les courses avec la voiture, l'année passée, j'essayais de dormir dedans. Comme ça, au moins, ça me coûtait moins cher.
Quel est le prix d'un vélo, par exemple?
Ça tourne autour des 8 000 francs.
Voilà, on dit toujours que les descendeurs mettent leur argent en priorité dans leur vélo. Pour le reste, c'est accessoire, l'hébergement, la nourriture. C'est un petit peu ce qu'on vit, ce qu'on voit lorsqu'on est sur ces milieux de course, non?
Oui, c'est sûr. Après, on choisit aussi. Ça dépend toujours aussi un peu... l'endroit, des fois, ça, c'est vraiment aussi sympa de juste faire un camping. Et puis, il serait que beaucoup de descendeurs ont un bus avec une petite tente. Et puis, ça va très bien parce que ça, c'est aussi sympa. Du coup, on se retrouve et puis on est tous ensemble. Après, des fois, sur les Coupes du Monde, c'est quand même bien d'avoir un appartement si jamais il pleut ou pour pouvoir bien se reposer. C'est quand même pas la même chose que si on galère un peu dans sa voiture, dans le coffre de la voiture.
Camille Ballonge, vous avez un curriculum de sportif très particulier. Vous avez notamment été membre de l'équipe de Suisse de hockey sur glace féminin. Vous avez vécu d'autres aventures. Vous êtes allée aux Jeux Olympiques, si je ne me trompe. Alors, hockey sur glace, descente VTT, quel rapport? Aucun?
Je dirais pas aucun. Mais pas beaucoup, c'est sûr. Mais je pense, j'ai toujours fait du sport d'équipe. C'est un peu la première fois que je fais un sport individuel, vraiment. Et puis, je dirais qu'il y a quand même... cet aspect un peu rapide, explosif, c'est qu'on a aussi un peu d'adrénaline, okay. C'est peut-être moins des sauts, des trucs comme ça, mais on a quand même quelque chose qui va vite, on est relativement rapide sur la glace, et puis je pense que c'était un peu ça que j'ai retrouvé avec le vélo. Après, c'est sûr que le hockey, c'était toujours dedans, toujours dans le même environnement, si on veut bien, alors qu'en vélo, ça change tout le temps, c'est toujours un autre pays, toujours des autres paysages, toujours une autre forêt, donc ça, c'est complètement différent. Après, je ne sais pas vraiment, en fait, comment je me suis retrouvée là.
Oui, en fait, Camille Ballonche, si on regarde vos curriculums de sportive, vous avez touché à tout, vous avez excellé quasi dans tout. Comment faites-vous?
Je sais pas, je crois que je suis juste vraiment passionnée et puis quand je commence quelque chose, j'ai envie de me tenir à fond et puis j'ai toujours envie d'arriver au meilleur niveau et puis c'est ça qui me motive et puis je pense aussi après à chaque fois d'avoir fait un sport avant, ça m'a toujours aidé au niveau de la coordination ou simplement, ouais c'est ça, de la technique, ça m'a quand même toujours un petit peu apporté les sports que j'ai fait avant, typiquement là, le hockey, je pense que le fait d'avoir joué 10 ans, d'avoir tenu une canne tout le temps dans mes mains, ça fait beaucoup la force des avant-bras. Et puis en vélo, c'est super important parce qu'il y a plein de filles qui ont des problèmes avec les arm pumps. Donc tous les trous, et puis quand on freine, ça fait mal aux avant-bras. On appelle ça des arm pumps. Et puis du coup, moi, j'ai vraiment jamais ce problème. Et puis ça, c'est un gros avantage parce que j'ai du hockey, par exemple.
Alors, quels sont les objectifs désormais pour la suite de la saison déjà? Quels sont les points forts?
Alors, c'est sûr déjà de pouvoir participer à toutes les Coupes du Monde. Pour moi, c'est déjà le but principal, donc ça veut dire réussir à pas se blesser aussi. Ensuite, ben là, c'est de toujours passer la qualif. Ça veut quand même dire être toujours dans le top 15, et puis on n'est jamais à l'abri d'une crevaison, d'une chute ou n'importe quoi, donc c'est quand même à chaque fois un challenge. Et puis après, m'installer gentiment toujours dans le top 10, et puis si je vois que je continue à m'améliorer et puis que tout se passe bien, pourquoi pas finir sur le podium, mais je pense que pour cette année... Enfin, on verra, mais cette année, c'est déjà bien m'établir dans le top 10, me qualifier pour les championnats du monde. Et puis après, tout ce qui est mieux, ça sera du bonus.
Camille Ballanche, merci beaucoup et bonne prochaine descente. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Cap Sport.
Il a manqué 4 dixièmes de seconde à l'équipe de Suisse de hockey sur glace et l'a donc raté hier sa qualification pour les demi-finales des mondiaux après avoir concédé l'égalisation contre le Canada de partout à moins d'une seconde de la fin du tir réglementaire avant de perdre en prolongation. Mathieu Schaffner, bonsoir.
Bonsoir Marcel.
Vous êtes notre envoyé spécial en Slovaquie. Alors comment percevez-vous d'une manière générale cette élimination un peu tragique, on a envie de dire?
Ouais, élimination très tragique, très cruelle, hein, parce que la Nati finalement a fait ce qu'on attendait d'elle sur ce match-là. Elle s'est montrée très concentrée, très disciplinée. Elle a fait presque tout juste avec un jeu de puissance qui fonctionnait enfin. Des réussites d'André Ghetto, de Nico Ischier qui ont permis de faire douter ce Canada. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a cette fin de match quand même assez horrible. À une seconde de la fin du match, on est qualifié pour les demi-finales. Et puis, 6 dixièmes plus tard... C'est des prolongations, but vainqueur pour le Canada. C'est assez frustrant parce qu'on a le sentiment qu'il y a un déclic qui se produisait sur ce match-là pour la Nati. Et puis on aurait été quand même assez enchanté d'avoir poursuivre son chemin ici en Slovaquie.
Vous avez rencontré les joueurs après le match. Vous parlez de frustration, cette élimination. Pour les joueurs, elle a été vécue comment, à votre avis? Comme un réel traumatisme ou une simple déception?
Ouais, c'est plus qu'une déception. Hein. Les visages étaient vraiment fermés, les yeux rougis. On était vraiment clairement abattus du côté suisse après cette partie. Et à Tristan Chervet qui nous disait, c'est clair qu'après le 2-2, on s'est regroupé sur le banc. On a dit, allez, on y va, c'est 0-0. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose dans ce match-là. Mais on sent que les échecs des années passées, il y a cette finale de l'an dernier face à la Suède qui est encore dans pas mal de têtes, ça commence à cogiter un petit peu dans les esprits suisses, ça c'est certain. Et puis quand on sait que le sélectionneur Patrick Fischer, il a un rêve, il le dit clairement, hein, c'est de devenir champion du monde avec la Nati, eh bien ça commence à faire aussi un peu lourd. Et c'est clair que hier la mine était très très terne, très très basse du côté de la zone mixte au moment où on a pu rencontrer les joueurs.
Voilà, un rêve reste un rêve, mais enfin, est-ce que ce n'est quand même pas une utopie d'imaginer que l'équipe de Suisse de hockey sur glace peut ou pourrait devenir championne du monde dans une année future?
Oui, je crois qu'on peut se le permettre, effectivement, parce que cette équipe de Suisse, elle prouve année après année qu'elle est en progression. Patrick Fischer, on lui laisse le temps aussi de mettre en place son système, de mettre en place un vrai projet à la tête de cette équipe de Suisse. On voit que les joueurs qui évoluent en NHL n'hésitent plus à venir jouer, à porter ce maillot de l'équipe de Suisse. Mais c'est sûr aussi que ces éléments-là, les joueurs qui évoluent de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, ils sont déterminants dans le parcours d'une Nati. Si vous enlevez Romagnosi, si vous enlevez Ischier, Niederreiter, on l'a vu sur les deux matchs qu'il a joué, Ischier, Praplan, Fiala, ce sont des joueurs qui manqueraient effectivement à la Suisse. Et puis prenez l'année prochaine, hein, si vous ajoutez un Timo Meyer par exemple, qui a cartonné cette année dans le championnat nord-américain, si vous ajoutez quelques joueurs comme ça, Dean Kukan au sein de l'arrière-garde, ça peut permettre de franchir un cap encore, et puis pourquoi pas d'aller effectivement titiller ce rêve de Patrick Fischer.
Mathieu Schaffner, vous parlez de franchir un cap, mais cette équipe de Suisse n'a-t-elle pas déjà franchi un cap, notamment avec sa médaille d'argent de l'an dernier, et même cette année, on a senti qu'il y avait un sacré potentiel.
Oui, il y a un gros potentiel dans cette équipe de Suisse. On voit que il n'y a plus grand chose qui lui fait peur finalement, qu'au niveau du jeu, on arrive à produire du jeu, on arrive à rivaliser face aux grosses nations mondiales. Elle l'a prouvé. Alors oui, elle n'a pas gagné deux matchs contre les grandes nations cette année en Slovaquie. Défaite face à la Suède, face à la République tchèque, face au Canada hier et puis face à la Russie. Mais dans trois de ces quatre matchs-là, elle a vraiment tutoyé l'exploit, que ce soit face à la Suède, face à la République tchèque ou encore hier face au Canada. Où elle a le plus progressé finalement cette équipe, je crois que c'est dans les têtes, c'est au niveau mental, parce que les joueurs l'ont rappelé tout au long de la quinzaine ici en Slovaquie, on ne joue plus pour ne pas perdre, désormais on joue pour gagner, et ça c'est quand même au niveau du sport un grand changement, parce qu'avant on faisait une grosse prestation face à la Suède, on perdait, on était satisfait. Aujourd'hui on n'est plus satisfait de ça, on ne veut plus s'en contenter, et je crois que c'est une des forces de Patrick Fischer, c'est d'avoir réussi à transmettre cette mentalité, cette rage de vaincre à la Nati, et c'est ça qui va lui permettre d'aller encore plus loin et qui lui a déjà permis, comme vous le dites, effectivement d'avoir franchi un premier cap.
Une des forces, certes, mais quand même, il y a des joueurs qui deviennent même dominants, des joueurs suisses qui deviennent dominants même en NHL, la Ligue professionnelle nord-américaine, donc ce n'est pas tout à fait par hasard si le hockey suisse est en progrès.
Oui, tout à fait. Et puis ces joueurs-là, ils sont très très jeunes, hein, ça faut pas l'oublier. Nico Hischier, c'était ses premiers championnats du monde, il a 20 ans. Kevin Fiala, il a 21 ans. Il devait prouver aussi qu'il peut avoir sa place dans cette ligue-là. On a un Philippe Korachev à 19 ans qui joue en ligue junior de l'autre côté de l'Atlantique, donc qui a pas forcément encore l'habitude de se frotter à des joueurs d'une grande expérience, à des gros gabarits, et qui a prouvé qu'il avait une carrure pour endosser un rôle important dans cette équipe de Suisse. On a vu un Yanis Moser avant sa blessure qui a été très intéressant, donc on a des joueurs avec un gros gros potentiel. Niederreiter n'est pas très vieux non plus, donc ça, c'est vrai que ça montre que le futur peut être assez doré pour cette équipe de Suisse.
Elle a un bel avenir devant elle, cette équipe de Suisse. C'était ma question suivante, vous m'avez précédé. À condition, vous l'avez déjà dit, que les joueurs de NHL soient présents. Ce qui n'est quand même jamais garanti à 100%.
Voilà, ça c'est jamais garanti et c'est le grand problème effectivement de cette équipe de Suisse. On a presque envie de dire que Patrick Fischer, il doit prier pour que les équipes de ces internationaux soient sorties assez vite, parce que c'est sûr que si vous enlevez un Romagnosi, si vous enlevez Niederreiter, si vous enlevez Hischier, Fiala, enfin en gros vous enlevez une ligne complète de joueurs qui provient d'outre-Atlantique, on se demande un peu qui on mettrait à la place pour assumer ce rôle de locomotive, parce que il y a bien sûr l'aspect de la glace, l'aspect sportif, mais il y a aussi le vestiaire qui parle. Ce sont des joueurs qui amènent beaucoup d'expérience, qui amènent des mentalités de gagneurs, qui, sur la glace, vont là où ça fait mal. Et c'est sûr que sans ces joueurs-là, c'est quand même, encore une fois, assez compliqué. Mais on le voit, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont gentiment traverser l'Atlantique. On parle de Gaëtan Haas, qui devrait tenter sa chance la saison prochaine. Donc il y a aussi un vivier de joueurs suisses qui se développe. Un Tristan Chervec a fait d'excellents championnats du monde. Et c'est avec ce mix-là que la Suisse peut espérer faire quelque chose dans le futur. Mais effectivement, c'est avec ce mix-là, parce que sans les joueurs de NHL, ça sera extrêmement compliqué.
Mathieu Schaffner, merci beaucoup et n'abusez surtout pas de la Borovica, hein, c'est l'eau de vie locale, il y a en Slovaquie des bières qui sont beaucoup plus légères. Bonne fin de soirée, au revoir.
Ah bah vous me l'apprenez, merci Marcel, au revoir.